ça serait de lui tuer son enfant. C'est ça le plus grand drame.
Mais qu'est-ce que vous lui proposez, alors, qu'on
l'aide à avoir ses enfants. Voyons,
il est monstrueux que des parents n'acceptent pas que leur fille...
C'est tout à fait évident qu'il est mauvais de tuer l'enfant.
Très bien, alors avis contraire, professeur.
Ah non, pas avis contraire, non. Pas avis contraire. Moi, je pense que c'est chaque situation doit être évaluée spécifiquement et à la taille du problème de chacun. Il y a des familles qui peuvent accueillir, comme vous dites, madame, un enfant de cette origine. Il y en a qui ne peuvent pas. Et moi, je me souviens très bien, enfin, on ne va pas rentrer dans les détails de cette chose-là. Moi, je suis très surpris que vous mélangiez toujours la façon de faire une interruption de grossesse avec l'opportunité ou la non-opportunité. Ça n'a rien à voir. Moi, je suis venu ici pour apprendre quelque chose. Je pensais bien que j'ai un petit peu un point de vue à défendre, mais je n'ai pas un point de vue pour ou contre l'avortement. J'ai un point de vue de malade en malade. Je me dis même que chaque fois que je fais un avortement, je me dis même faudrait que j'arrête de faire ça parce que c'est, sans avoir de référence à mon catéchisme comme vous, ça me plaît pas trop de détruire une grossesse bien faite, etc. Mais quand la femme revient avec le problème médical, voyez-vous, je suis un récidiviste.
Alors médicalement parlant, est-ce que cette pilule abortive Veru 486 peut être prescrite à des femmes de n'importe quel âge ou est-ce qu'il y a une limite?
Non, il n'y a pas de limite.
Il n'y a pas de limite. Très bien. Alors, je pense qu'on a répondu, Martina, à la question. Est-ce que nous passons aux téléspectateurs? Y a-t-il quelqu'un en ligne? Allô?
Oui.
Oui, bonjour, madame. Vous êtes à l'antenne. Posez votre question.
Alors, je posais la question au professeur français.
Oui, monsieur Lejeune.
Voilà. Cette pilule,
486.
Voilà. Oui. Si on la prend, on décide qu'on interrompt la grossesse. Et puis plus tard, on décide qu'on voudrait avoir une grossesse, est-ce possible?
Voilà, professeur Lejeune.
C'est pas trop dangereux pour la femme et éventuellement pour l'embryon du bébé qui viendra plus tard.
Alors, votre question est double, madame. Est-ce que c'est très dangereux pour l'embryon de prendre cette pilule et que l'embryon ne soit pas tué du premier coup? Il est probable que c'est dangereux, mais nous n'avons pas de statistiques sur ce point, je ne peux pas vous répondre précisément. Il n'est certainement pas bon d'avoir diminué l'alimentation sanguine du fœtus à un moment donné de son développement, ça c'est sûr. Ce n'est pas le côté malformatif n'est probablement pas le côté pernicieux de cette pilule. Ce qu'il a, c'est qu'il tue cet enfant. Maintenant, est-ce qu'il restera quelque chose pour l'enfant suivant? Je ne pense pas plus que d'un avortement instrumental. Ça, c'est un empoisonnement chimique, mais l'empoisonnement est de courte durée, et je ne pense pas qu'il soit plus toxique pour la suite gynécologique de la femme que l'avortement instrumental. Mais mon collègue, qui, lui, est instrumentaliste, vous répondra beaucoup mieux que moi sur ce point-là.
Professeur de Grandis, sachant que le taux d'efficacité de cette pilule RU486 est de 95-96%, dans les cas où elle n'interrompt pas la grossesse, qu'est-ce qui se passe?
Alors, jusqu'à présent, cette pilule, en ce qui nous concerne, et en France aussi, a été utilisée dans le cadre d'études cliniques précises. Ces études cliniques font l'objet de protocoles qui doivent être suivis de façon tout à fait stricte. Dans ce protocole, il est bien précisé que si l'interruption de grossesse ne se fait pas, comme c'est le cas, on le sait, dans 5% des cas, il est évident que la femme qui a demandé une interruption de grossesse continue à la demander et qu'elle ne prendra part à cette étude que si elle est d'accord en cas d'échec de subir un avortement instrumental habituel. C'est absolument évident.
D'accord. Alors, s'il n'y a pas de survivant, on ne peut pas répondre à la question.
Eh bien, je crois néanmoins qu'on vous a répondu, madame. Merci d'avoir appelé. Un autre téléspectateur, une autre téléspectatrice, allô?
Oui, bonjour.
Oui, bonjour, madame.
C'est Isabelle Ourier. Je vais vous demander, déjà en Suisse, dans les plannings familiales, on donne déjà des pilules abortives au planning familial. Parce que moi, j'avais eu une petite histoire comme ça, et puis on m'avait donné une pilule. On m'avait dit de la prendre 12 heures en premier, 12 heures après, et puis ça passera.
Alors je crois, madame, que vous faites confusion là. Madame Jobin va pouvoir rétablir les choses.
Je pense que madame fait allusion à la pilule du lendemain, qui est une dose plus massive de pilule contraceptive, et que ça n'a rien à voir avec le RU486, qui n'est absolument pas introduit en Suisse, sauf dans des hôpitaux qui le testent.
Voilà, madame, est-ce qu'on a répondu à votre question?
Oui, oui. D'accord.
Très bien, je vous remercie d'avoir appelé. Y a-t-il quelqu'un d'autre en ligne? Allô?
Oui, bonjour, monsieur. Dame.
Bonjour, monsieur.
Écoutez, vous parliez que vous n'aviez pas trouvé de médecin suisse. Je pense que vous auriez demandé au professeur Segesser, un grand chirurgien qui vient malheureusement de prendre sa retraite, de Lausanne, qui a mis un article sur 24 heures. Si ça ne concernerait pas surtout le tiers-monde ou un monsieur peut avoir 5-6 épouses et jusqu'à 55 gosses ou 52 gosses. Et si ça ne serait pas justement la sauvegarde pour ces pays plutôt que chez nous, quoi.
Donc, au fond, vous demandez si cela ne pourrait pas résoudre les problèmes démographiques du tiers-monde,
voilà,
c'est ça?
Voilà, parce que lui, M. Seguesser, sur un immense, un grand article de la Feuille de Lausanne, mais que ce soit toutes les religions confondues, tous les partis politiques confondus, on ne veut pas voir que les malheurs du monde viennent de cette explosion démographique.
Alors, Mme Tignoux, une première réponse.
Tout à fait. Je suis la dernière d'une famille de 10 enfants. Est-ce que moi aussi, je n'ai pas le droit d'être ici? Est-ce que le droit de vivre des êtres humains doit-il dépendre sur l'éducation, sur les capacités financières ou bien le pays d'origine des parents? Et vous parlez de surpopulation du tiers-monde, mais n'oubliez pas qu'en Europe, il y a une implosion démographique qui signifie que chaque année en Suisse, il y a 1% moins de population, que d'ici 20 ans, la Suisse manquera 6000 personnes pour les soigner dans les hôpitaux. Ça va venir d'où, ces gens? Ça va venir du tiers-monde, parce que l'Europe a des taux de natalité très bas.
Monsieur Legrandi, vous vouliez ajouter quelque chose?
Moi, je voudrais rendre hommage à un de mes maîtres, qui est le professeur Seguesser, que j'aime beaucoup, et dont j'ai beaucoup apprécié le livre qu'il a écrit sur César Roux, dans lequel il rend quelques lances, effectivement, dans le sens de la question de monsieur, et dans lequel il laisse tomber aussi une phrase qui m'a un peu sidéré, mais qui m'a en définitive assez plu. C'est qu'à propos des restrictions du Vatican et autres spécialistes de la question, M. Seguesser se demande à quand l'encyclique du pape contre le nazisme, par exemple. Je pense que c'est une bonne réflexion.
Oh, je pense que c'est une excellente réflexion, car effectivement, les nazis étaient racistes. Et de vouloir tuer les enfants du tiers-monde, c'est du racisme. C'est pas parce que vous le ferez avec une pilule chimique
vous
que ça sera pas du racisme.
Vos amalgames fallacieux et
ils ne sont pas fallacieux. Et je voudrais reprendre quelque chose, car madame m'avait coupé à ce moment-là, oui. Et peut-être les téléspectateurs n'ont pas bien compris. Lorsque l'on a parlé de ce que j'avais dit un jour, et que je répète aujourd'hui, que cette pilule, si elle est produite industriellement, tuera autant de monde qu'Hitler, Mao Tse-tung et Staline réunis, je n'ai pas fait un faux calcul. Il y a déjà 35 000 enfants qui ont été tués cette année en France. Ce ne sont pas des petits chiffres. Quand on fabrique quelque chose industriellement, ça se fabrique par 10 millions de doses au minimum par an.
Ah ouais.
Or, 10 millions de doses de ce RU486, ça veut dire 10 millions de morts, de petits êtres humains. Donc, je n'ai pas fait d'amalgame. Vous m'accusez d'amalgame avec les nazis. C'est vous qui venez de parler du Vatican et du nazisme. Je n'ai pas fait d'amalgame. J'ai dit des vérités élémentaires que tout le monde peut connaître. Les chiffres sont énormes.
Monsieur Lejeune, vous parlez comme si, en l'absence de RU, il n'y avait pas d'avortement. Or, vous savez très bien qu'il y a toujours eu ce problème, qu'il y a toujours eu des avortements, qu'avant, les femmes étaient malades ou mouraient à cause des avortements qu'elles faisaient avec la même fréquence ou presque.
Ce n'est pas vrai.
Et qu'il ne faut pas opposer le RU à l'absence d'avortement.
Vous savez très bien que ce n'est pas vrai.
Vous savez pas.
Ah non, écoutez, je n'admets pas qu'on m'a accusé de malhonnêteté de cette façon-là. Je vous demande de retirer le mot malhonnête.
Que ce débat ne devienne pas une corrida, monsieur.
Ah non, mais madame, je vous demanderai que monsieur retire le mot malhonnête, car je n'ai pas
dit
malhonnête.
Disons que je retire le mot malhonnête, mais je le remplace par inadéquat.
Oh, bon, ça, si vous voulez, ça, c'est votre droit le plus strict.
Un dernier élément de réponse, madame Soudman, avant que nous passions à un autre téléspectateur.
Je trouve que la situation est probablement bien pire que vous le dites. Il y a bien plus de millions d'enfants, enfin, de fœtus morts que vous ne le dites. Il y a 2 grossesses sur 3 qui échouent naturellement,
oui.
Avec des fausses couches naturelles.
C'est vrai.
Et vous n'intervenez pas pour améliorer toute cette situation.
Mais madame, mon métier est justement d'intervenir, mais nous ne savons pas encore guérir toutes les maladies.
C'est une logique qu'on ne peut pas prendre. Chaque ovule et chaque million de spermatozoïdes que les hommes produisent sont des vies potentielles.
Alors, vous déplacez toute le débat sur la notion de vie et sur votre point de vue éthique.
Et le problème, c'est que je vous reconnais le droit d'avoir ce point de vue.
Je vous reconnais
le droit de penser qu'il faut empêcher les femmes d'avorter, de votre point de vue à vous. Ce que je ne vous reconnais pas, c'est le droit de dire qu'il faut, au niveau médical, au niveau juridique, au niveau politique, décider pour ces femmes. Mm-hmm. Les femmes ont avorté de tout temps, dans toute société, sous toute religion. Dans nos pays et encore autour, chez nous, elles le font avec des aiguilles à tricoter et elles continuent. Elles ont accepté de le faire avec des curetages à vif, très violents. Aujourd'hui, les femmes vont continuer. Il y a un taux d'échec social qui fait que les femmes ont besoin d'avoir recours à cette solution. Et quand vous dites que ça va être un problème pour le tiers-monde, c'est vrai. Aujourd'hui, c'est un problème, l'avortement, pour le tiers-monde. une des causes majeures de mortalité maternelle, donc autour de tout ce qui est grossesse, est l'avortement clandestin, l'avortement pratiqué dans les mauvaises conditions. C'est vrai. Alors, je ne pense pas que la pilule sera la solution miracle. Personne n'y a pensé, personne de nous le dit. Mais alors, essayons de trouver les conditions sociales qui feront que les femmes n'avorteront plus avec une aiguille à tricoter et qu'elles pourront peut-être, avec le RU, avoir de meilleures conditions.
Ou garder les enfants.
Bienvenue, tout à fait, bienvenue, adopter. Madame. Tout à fait adopté, mais bien sûr. Vous avez adopté des enfants, vous, madame?
Non, j'ai la chance d'avoir les enfants, je n'ai pas, mais je connais des autres qui ont fait. Et même des enfants handicapés.
Là, j'aimerais juste réagir sur l'adoption. Je trouve terrible de penser que, comme monsieur parlait des moindres inconvénients à choisir, parce qu'en fait, à partir du moment où il y a un échec de contraception, il y a inconvénient parce qu'il faut décider d'une décision grave. Je trouve terrible de dire, laissons mettre cet enfant au monde et faisons l'adopter. C'est tenir absolument aucun compte du degré de souffrance qu'il peut y avoir, je ne dis pas qu'il y a toujours, mais qu'il peut y avoir chez un enfant qui a été abandonné, parce qu'il est forcément abandonné pour qu'il soit adopté par quelqu'un d'autre, avant qu'il y ait décès dans certaines circonstances, de la détresse de l'enfant, mais aussi la détresse de la mère qui doit prendre la décision d'abandonner. Pourquoi est-ce que c'est plus dramatique de décider soi-même, personnellement, d'interrompre une grossesse que de décider d'abandonner un enfant qui ensuite devra porter cette chose-là toute sa vie? Qu'il s'en sorte bien ou mal, il aura un travail immense à faire là-dessus.
Voilà, monsieur, je crois qu'on a répondu.
Radio Zone, onde femme, 93,8 MHz. Vous êtes en train d'écouter l'enregistrement d'un débat de la transmission table ouverte de la télévision suisse romande, débat qui a eu lieu le 28 janvier 1990 sur le RU486, pilule abortive.
Bonjour messieurs, je tiens à vous dire tout d'abord que je suis avec beaucoup de passion vos débats.
Merci. Votre question ?
J'aurais trois questions à vous poser.
Écoutez, commençons par la première pour que nous puissions passer la parole à d'autres téléspectateurs, si vous le voulez bien.
D'accord, commençons par la première, d'accord. Alors, l'interdiction pour des raisons religieuses de la pilule anticonceptionnelle par Jean XXIII a-t-elle des incidences sur la création de la toute récente pilule abortive? Ma première question.
Alors, nous allons tenter d'y répondre. Est-ce que vous en avez une idée, professeur de Grandi?
Non, moi, tout ce que je sais, c'est que c'est l'année où Mme Weil a fait passer sa loi sur l'avortement qu'un chercheur de Roussel-Uclaf a découvert le groupe de molécules qui allait donner lieu évoluer vers RU486. Je ne vois pas d'autres relations.
Vous avez d'autres éléments de réponse?
Aussi de M. Ullmann, qui est un des directeurs de Roussel-Uclaf, qui souhaite quand même que les femmes prennent une pilule par mois que pendant 21 jours.
Donc, Roussel-Uclaf, pour que ce soit clair, c'est donc la firme pharmaceutique qui produit cette pilule abortive. Voilà, votre deuxième question, et on s'arrêtera là, monsieur.
Vos invités préfèrent-ils la pilule anticonceptionnelle ou l'avortement ?
Madame Jobin, qui réagit tout de suite.
Je crois que c'est essentiel. On ne peut pas préférer un avortement. On ne peut pas préférer un avortement. Et dans le cadre de notre association, nous luttons pour le droit à l'avortement et pour la contraception. Et nous faisons un immense travail d'information sexuelle. Nous travaillons, nous faisons... à la ligne téléphonique, nous avons des informations sur les centres d'éducation sexuelle, les centres de planning. Je pense qu'il est primordial que l'éducation sexuelle soit répandue dans les cours, dans les classes. Et nous devons faire un travail de prévention. Et le but, c'est de faire en sorte que si interruption de grossesse il y a, elle soit faite dans les meilleures conditions, mais si possible qu'il n'y en ait pas, et qu'une femme qui est passée par une interruption de grossesse ne doive pas recommencer une deuxième fois.
Alors, juste dans le cadre de Oui à la vie, vous êtes favorable ou pas à la contraception?
Nous prenons merveilleusement les méthodes naturelles, les méthodes naturelles d'auto-observation, parce que je pense que dans ce cadre-là, nous avons des relations sexuelles entre un homme et une femme qui sont des véritables relations de tendresse et d'amour. C'est ce que nous cherchons tous. Donc nous faisons énormément de prévention et des informations dans les collèges et nous développons beaucoup ces méthodes naturelles de régulation de naissance
qui
ont un taux d'efficacité tout à fait remarquable. Il y a eu des chiffres produits par l'OMS qui sont de
0% de déchets
et qui n'empoisonnent pas, qui ne rapportent rien dans le laboratoire pharmaceutique, n'est-ce pas? Je veux dire qu'il y a quand même tout un intérêt financier des laboratoires pharmaceutiques qui ne sont pas pour prôner ce genre de...
Alors, en parlant de l'OMS, j'ai ici la position de l'Organisation mondiale de la santé face à cette pilule RU486. Je vous en traduis, puisque c'est en anglais quelques passages. L'OMS dit ceci: elle reconnaît que des méthodes médicales sûres et efficaces d'interruption rapide de grossesse peuvent être moins problématiques que les méthodes chirurgicales. Donc, c'est en faveur de cette pilule que l'un de ces programmes spéciaux a soutenu les recherches sur la RU486 et que des recherches intensives ont montré que la RU486, cette pilule abortive, est un produit efficace sûr lorsqu'il est administré sous un strict contrôle médical. Alors, professeur Lejeune, est-ce que ce n'est pas un peu troublant, cette position aussi favorable de la part d'une organisation crédible, quand même ?
Non, ce n'est pas du tout troublant parce que l'OMS a fait campagne pour l'avortement aussi. Donc, ce n'est pas du tout troublant. Non, non, ce n'est pas du tout troublant, c'est la position de l'OMS, on le sait.
Alors,
Alors, non, ça, ce n'est pas du tout troublant. L'OMS l'a déjà fait. Alors, il n'y a pas de surprise. Et ce que je voudrais dire qui m'a beaucoup troublé, moi, madame, c'est ce que vous avez dit au début de l'émission. C'est peut-être que j'ai mal compris, mais au début de l'émission, quand vous parliez tout à l'heure, vous avez dit que tout dépendra de la décision de la firme RU de savoir si le produit sera distribué en Suisse. Mm-hmm. Mais alors, j'ai été absolument terrorisé quand vous avez dit ça, parce que comment la Suisse dépendrait de l'opinion
Il y a une ellipse.
Rassurez-moi. Que les choses soient claires, c'est à la firme pharmaceutique qui a produit cette pilule, évidemment, de prendre la décision de savoir si elle veut demander ou pas l'autorisation de diffuser cette pilule.
Gagner les ou pas, je comprends. Sur, c'est l'affaire de commerce.
Donc, cette décision n'est pas encore prise.
Mais il y a quand même en Suisse un organisme qui
juge si la produit peut être utilisé ou pas. Si l'organisme va accepter ou pas, la question c'est de savoir si Roussel fait la demande d'homologation ou pas.
Il y a une autre question, vous voyez. Et pour un Français, elle est très importante. Car quand un ministre français prend une décision, nous, citoyens français, on ne peut rien dire si ce n'est d'obéir. On peut ensuite voter pour quelqu'un qui renommera ou pas ce ministre. Mais vous, en Suisse, vous avez un avantage prodigieux. Vous êtes les seuls à avoir une démocratie directe. Alors là, je m'adresse à mes amis suisses. Vous êtes les seuls à pouvoir, dans le monde, décider, vous, si vous voulez que des techniciens fassent vendre dans votre pays un poison pour tuer vos enfants.
Alors, chaque téléspectateur en décidera.
Écoutez bien cela et rappelez-vous que votre histoire, c'est un homme qui a visé la pomme, mais n'a pas visé l'enfant.
Eh bien, monsieur Lejeune, un débat comme ceci a aussi pour utilité que les téléspectateurs puissent faire leur choix.
Exactement.
Voilà, je crois qu'on a aussi très largement répondu à votre appel. Je souhaite que nous passions à un autre téléphone. Y a-t-il quelqu'un en ligne ?
Oui.
Bonjour, madame, c'est
Bonjour.
À vous.
Voilà, je voulais juste vous poser cette question, la question suivante. Pourquoi les femmes ne préviennent-elles pas avant la grossesse et ne pense-t-on pas que ce genre de pilule puisse faciliter à la légèreté ?
Madame Jobin.
Il y a dans la vie d'une femme, entre sa puberté et la période de sa ménopause, des centaines de possibilités, de potentialités d'être enceinte. Je crois qu'il faut tenir compte de cette réalité et savoir que donc il y a risque d'avoir à un moment ou l'autre de sa vie une grossesse qu'on n'a pas désirée. Et c'est là, pour répondre à madame, de nouveau un travail de prévention et d'information. Je pense que la seule alternative, c'est la contraception, qu'elle soit naturelle comme vous le souhaitez ou qu'elle soit avec des techniques qui peuvent offrir une meilleure efficacité. Mais il faut que les femmes soient informées de ça. Il ne faut pas oublier qu'il y a un aspect irrationnel aussi en chacune et chacun de nous qui fait qu'on n'aura pas toujours le temps et les moyens, les moyens d'être informés au bon moment. Il faut tenir compte de la réalité.
Alors, est-ce que cette pilule pourrait être prise à la légère ? C'est aussi le deuxième terme de la question de madame, professeur de Grandi.
Ah, alors, en tout cas pas. Je crois qu'en Suisse, l'avortement, comme je vous l'ai dit, fait l'objet d'un article du Code pénal. Donc, chaque avortement est autorisé par un avis particulier. J'en pense sur les détails de procédure. Mais dans mon esprit, il est évident que dans les conditions actuelles, l'accession ou l'obtention de cette pilule devrait être directement liée au cautèle de l'avis conforme. C'est-à-dire que ces deux éléments seraient indissociables et ce serait parfaitement contrôlable.
Vous sembliez, du côté des adversaires de cette pilule, soupçonner, au fond, ces propos-là de naïveté. Alors pourquoi ?
Un petit peu parce que je crois que le professeur Jean Bernard est intervenu à Genève il y a quelques semaines devant une société de médecins et ce professeur Jean Bernard a voté au nom du Comité national d'éthique en France l'autorisation de distribution de la pilule dans les conditions extrêmement strictes des centres d'orthogénie. Et il a dit lui-même qu'il ne donne pas 2 ans pour qu'il y ait un marché noir de cette pilule. Et alors on retournera dans le drame de cet avortement clandestin où la femme sera encore plus seule et encore plus désespérée avec son désespoir et sa détresse après avoir pris cette pilule.
Mais comment imaginer un marché noir de cette pilule ?
Parce qu'elle sera produite, parce que ce sera... je veux dire que la drogue n'est pas autorisée et on la trouve partout. Je veux dire, c'est un peu... les femmes pensant que c'est vraiment le meilleur moyen, on le saura.
C'est pas inévitable, effectivement. Oui.
D'abord, pour préciser, le problème de l'application du RU,
La question a déjà été posée au niveau politique. Au Conseil le Conseil national a eu la discussion après une question de M. Zwigart du Parti évangéliste, où on lui a répondu de façon très claire, l'article du Code pénal suisse actuel, l'article 120, resterait le cadre strict d'application. Donc c'est la même chose qu'en France avec le cadre strict d'application de la loi Veil. En ce qui concerne le marché noir, je pense que le marché noir se développera d'autant plus qu'on n'autorisera pas la diffusion dans le cadre très strict des plannings familiaux, des médecins qui pratiqueraient l'avortement. Et je crois que c'est ça. Plus on va amener le débat, plus on va permettre à ce que ça se passe dans de bonnes conditions médicales, dans le cadre d'un contrôle strict, on évite le marché noir. On évite
qu'il y ait l'Europe. Le tiers monde.
Je parle en ce qui nous concerne, en ce qu'on peut comprendre et ce qu'on peut contrôler.
Suisse, vous êtes contre une vente libre en pharmacie.
Bien sûr.
Il faut bien sûr la fabriquer cette pilule. Je pense
aussi que l'OMS, qui a travaillé en collaboration avec Roussel Ouklaff pour la production de cette pilule, s'est garanti le droit, au cas où Roussel Ouklaff retire la pilule pour des motifs économiques, pour des motifs de pression politique, de peur d'apparaître comme le trust de la chimie qui est producteur de l'élément abortif, l'OMS a aussi fait un accord par lequel elle peut reprendre la possibilité de créer et de développer. Je pense que c'est extrêmement important.
Un seul mot, Monsieur Lejeune, pour que nous avancions.
Oui, ça fait partie de la commedia dell'arte. Nous avons assisté en France. Roussel a dit, je retire ma pilule, je ne veux pas qu'on dise que je suis le fabricant de la guerre chimique. Le ministre de la Santé, qui n'en avait aucun droit, l'a mis en demeure de remettre sa pilule sur le marché. Il n'en avait aucunement le pouvoir. C'est interdit par la loi française.
Mais qu'est-ce qui est interdit ?
Le ministre n'avait pas le droit d'ordonner à Roussel Ouklaff de refaire sa pilule. Il n'en a pas le pouvoir. Simplement, par la législation française, il n'a pas le pouvoir. Et ça a été une sorte de comédia de l'arté pour faire croire aux gens qu'il s'était passé quelque chose et qu'ils avalent finalement la pilule. Ça sera la même chose avec l'OMS qui refera la même chose avec Roussel Ouklaff. Il faut tout de même que nos contemporains ne soient pas d'une telle naïveté et qu'ils se rendent compte que quand un produit peut tuer des millions d'êtres humains et un nombre élevé de millions d'êtres humains, la seule protection, c'est de ne pas le fabriquer. La seule protection contre les gaz asphyxiants, c'est de ne pas en faire.
Je vous arrête là. Je vous remercie, madame, d'avoir téléphoné. Martine Achiba nous a rejoint. Alors, quoi de neuf du côté des téléspectateurs ?
Alors, le débat continue autour de la pilule et plus largement autour de l'avortement en général. Et nous avons énormément d'appels pour nous dire qu'il est préférable d'avorter et d'avorter dans de bonnes conditions, comme le permettrait éventuellement la pilule, que de voir des enfants non désirés et par conséquent malheureux. Maintenant, il y a beaucoup de téléspectateurs regrettent également qu'il n'y ait pas de femmes médecins pour s'exprimer, car ils disent que ce sont elles qui parleraient le mieux à propos de cette pilule.
C'est pas faute d'en avoir cherché.
Et puis, il y a juste une petite question à laquelle le professeur De Grandi pourrait peut-être répondre. On s'inquiète de la stérilité éventuelle après l'utilisation de cette pilule et on se demande, en cas d'échec de la fausse couche, que se passe-t-il ?
Donc je crois qu'il était rapidement répondu déjà, en deux mots.
Déjà, M. Lejeune a déjà répondu à cette question. Il n'y a pas de raison de penser qu'il y aura plus d'échecs à la fertilité ultérieure. Il y a des raisons de penser, au contraire, qu'on ménage mieux les organes génitaux des femmes avec cette pilule, notamment en évitant toute agression instrumentale et chirurgicale. On n'a pas du tout de raison de penser qu'il y aura des problèmes par rapport à l'utilisation de cette pilule par la suite. Sauf des projections, comme vous faites. Vous dites ça va faire le cancer, des choses comme ça. Ce n'est pas documenté.
Je voudrais répondre à l'intervention de madame sur les cobayes. On n'a jamais vu qu'un produit soit testé sur des êtres humains avant que des tests préalables aient été faits et avant que la recherche soit dans un état suffisamment poussé
qui nous
pour pouvoir faire ces tests.
C'est le manque de recul.
Les premières études ont été faites en 82 par le professeur Hermann en Suisse.
8 ans, il faut peut-être 20 ans ou une autre génération pour trouver les effets.
Très bien, nous allons passer à nouveau la parole au téléspectateur, si vous le voulez bien. Y a-t-il quelqu'un en ligne ? Oui, bonjour madame, c'est à vous, posez votre question.
Oui, bonjour madame Dribouche-Féchy.
Oui, bonjour.
Avant de poser ma question, j'ai une petite remarque à faire. Je trouve que c'est dommage que les opposants qui sont là aujourd'hui soient en réalité plus contre l'avortement plutôt que contre la pilule elle-même.
On est les deux.
Ce qui m'amène à la question fondamentale, quelles sont en réalité les raisons médicales qui font que les médecins sont contre cette méthode d'avortement comparée à une autre ?
Monsieur Lejeune, professeur Lejeune.
Je ne dirais pas, madame, que nous sommes plus contre la pilule RU-490 qu'une autre méthode, car une autre pilule aussi toxique sera aussi dangereuse. Mais dites-vous bien, et je le répète parce que c'est d'une importance extrême, que la médecine a été faite pour lutter contre la mort et pour la vie. Et que ces produits chimiques, qui sont une agression, sont faits contre la vie. Et donc, ils ne font pas partie de la médecine la plus vraie.
Voilà. Est-ce qu'on vous a répondu, madame ?
Pas tout à fait. Ça, c'est votre point de vue.
Oui, c'est mon point de vue, madame.
Alors, nous allons passer la parole à la partie adverse, madame Sautebin, Marie-Thérèse Sautebin.
Oui, je pense justement que vous n'avez, dans votre argumentation, pas de fondement scientifique contre le RU. Votre débat, votre position, la position des tenants de oui à la vie est un point de vue éthique, un point de vue fondamental sur la notion de vie ou pas vie.
Je ne comprends pas ce que vous voulez dire, madame.
Vous portez oui. Le débat non pas au niveau médical, sur le RU lui-même.
Au niveau éthique, c'est ce au que niveau... vous voulez dire, moral.
Ah, vous voulez dire
il est
toujours déplacé. Sur la technologie pharmacologique
voilà.
du RU.
Il est toujours
mais la
déplacé
technique pharmacologique du RU,
sur non. votre point de vue de départ qui oui. est contre l'avortement. Et nous, on demande, oui. et je crois que c'est extrêmement important, le droit, l'accès à l'avortement.
Eh bien,
gardez votre point de vue
madame, c'est très
pour
clair.
Vous.
Mais le RU n'est pas meilleur que la curette. Vous en êtes bien d'accord.
En plus,
vous, vous aimez un peu
ça c'est l'autre problème.
C'est
et en plus, il est meilleur.
Mieux, non, c'est pas que
votre
j'aime
notion,
un peu mieux.
Vous
voyez comment vous vous exprimez. C'est pas que j'aime un peu mieux.
Non, vous sembliez dire qu'il y a des avantages.
C'est qu'il y a des avantages. Des avantages objectifs, qu'on a déjà cités.
Oui.
Les gens ne sont pas hospitalisés. Les gens ne subissent pas d'agression chirurgicale. Ils ne subissent pas les risques d'une anesthésie générale. Les risques d'une anesthésie générale.
Il ne faut pas exagérer. On
ah non, faut
que l'avortement est dangereux. Il y a deux ans, on nous expliquait qu'il
n'y
avait plus de danger.
Non, d'accord. Le fait que le RU soit un avantage médical dans la réalisation d'un avortement dans certaines conditions est un fait scientifique et médical incontournable. Et les gens qui ne sont pas de cet avis exercent tout simplement un terrorisme intellectuel. Je cite M. Reinschnick de médecine et hygiène
de
l'homme.
Pour résumer, il y a des avantages, mais également des inconvénients qui sont, un, le délai assez court, et deuxièmement, comme le disait Mme Noël, le fait que c'est assez difficile à assumer psychologiquement, c'est cela.
Je voudrais citer un danger que vous n'avez jamais cité et qui n'avait jamais existé avant le RU. C'est qu'à l'heure actuelle, il est possible de faire avorter une femme sans qu'elle le sache. Car si vous disposez du RU et que cette femme est simplement mal à la tête, que vous ne voulez pas qu'elle ait d'enfant, vous lui faites avaler les trois pilules en lui disant que c'est de l'aspirine, elle n'en saura rien et elle aura sa fausse couche.
Écoutez,
c'était
monsieur,
impossible autrefois avec les méthodes expérimentales.
Mais vous aviez une telle foi en le serment d'Hippocrate, monsieur.
Oui, moi je ne le ferai pas. Ah non, ça c'est sûr.
Vous pouvez avoir foi en la façon dont les médecins pratiquent. Pas
mais pas madame, pas, vous parlez des médecins, mais quand vous aurez produit des millions de doses, est-ce que vous comprenez qu'il n'y aura
elles
pas un contrôle de chacune
nous,
des doses et vous aurez pour la première fois un poison qui permettra éventuellement à des empoisonneurs, là je ne parle plus des avorteurs, je parle d'empoisonneurs, d'avorter une femme qui ne le saura même pas. C'était impossible instrumentalement. C'est un danger.
Il n'y a aucune indication maintenant qui nous donne l'impression que ce médicament va être mis sur le marché comme une simple aspirine dans les pharmacies. Partout où il a été, il est testé en France, il est testé en Suisse, il est testé en Chine, il y a des lois d'application qui entrent dans le cadre de la loi en vigueur dans le pays, voire des choses plus strictes, puisqu'il est absolument nécessaire qu'il y ait un accompagnement.
Madame,
et ça, nous y sommes favorables.
Voilà, je crois qu'on a répondu très largement
on
à cette téléspectatrice.
On peut aussi aiguilles à tricoter.
Merci de nous avoir appelé, madame.
C'est bien.
Un autre téléspectateur, si vous voulez bien, ou téléspectatrice, y a-t-il quelqu'un en ligne?
Oui, allô?
Oui, bonjour, madame, c'est à vous.
Bonjour, madame. Je voudrais, si possible, remercier toutes les personnes qui sont là, mais est-ce que c'est aussi possible que le monsieur français se taise un petit instant pour laisser parler le professeur du CHUV à Lausanne. Je voudrais lui poser la question suivante.
Allez-y.
Depuis tant d'années, des femmes de partout dans le monde, que ce soit le tiers-monde, l'Afrique, la Suissesse ou la Française, souffrent depuis toujours de ces avortements, de cette angoisse et de cette détresse. Moi, j'aimerais savoir une chose. On parle maintenant d'une pilule qui pourrait éventuellement solutionner pas mal de problèmes dans un certain sens. Mais pourquoi, s'il vous plaît, monsieur le professeur, toujours Alors, les femmes sont-elles les cobayes? Jamais les hommes. On n'a jamais trouvé une pilule anticonceptionnelle pour ces messieurs. Je n'ai jamais rien entendu dans ce sujet-là. J'aimerais beaucoup qu'on m'y réponde parce que je ne suis pas la seule à se poser cette question. Pourquoi toujours les femmes et rien pour les messieurs?
Professeur de Grelier.
Madame, on peut que vous donner tout à fait raison, pleinement raison. C'est absolument juste. Votre remarque est parfaitement pertinente. Personne dans notre, parmi les médecins serait opposé à, les, à, la, à la création d'une pilule pour les hommes.
Contraceptive.
Le problème, c'est que fondamentalement, les hommes ne risqueront jamais d'être eux-mêmes enceintes et que par conséquent, la motivation à prendre cette pilule est relativement plus faible et la fiabilité est moins bonne. Et c'est probablement pour ça que cette voie de la contraception n'a jamais été très, très effective. C'est une chose, un problème très fondamental. C'est pas les hommes, au fond, sont des éléments, je vais un petit peu être caricatural, mais presque inutiles. La femme a gagné, n'est-ce pas? Les hommes n'ont jamais rien fait de véritablement important, puisqu'ils n'ont jamais fait de bébé.
C'est vrai. Voilà. Vous a-t-on répondu, madame?
Je ne suis pas satisfaite de la réponse, parce que c'est toujours la même réponse. L'homme est tabou dans un certain sens et ne peut pas avoir d'enfant, donc il n'y a pas de recherche possible. Mais non, d'un petit bonhomme, on va sur la Lune, on va dans les étoiles, on va un peu partout, et on n'a encore rien trouvé pour que ce soit une fois le monsieur qui, lui, doive prendre quelque chose pour éviter à son épouse des désagréments. La plupart du temps.
Ferrand, il y a des recherches en cours.
Il y a
des recherches en cours, oui, madame.
Vous venez d'entendre l'enregistrement d'une émission de la télévision suisse romande Table ouverte de dimanche 28 janvier 1990.